la démission. Son départ suscite des inquiétudes concernant la stabilité de Nissan et de l'alliance avec Renault. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Et on termine sur cette information. Radio G, savourez nos différences en RNT sur Angers. Radio-g.fr.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je voudrais choisir un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Fabrice Caro, dit aussi Fab Caro, est un auteur de bande dessinée français, né à Montpellier en 1973. Il a remporté de nombreux prix littéraires, en particulier pour sa BD « Zaï 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 » parue en 2015 et qui lui apporte le succès. En parallèle de cette carrière, il est également musicien, auteur-compositeur et chanteur. Lors de la rentrée 2020, il obtient le prix Joseph avec son roman « Broadway » publié aux éditions Gallimard. Nous nous intéressons aujourd'hui à son précédent roman « Le discours » paru en 2018 et adapté au cinéma en 2020 par Laurent Tirard. On demande au narrateur qui vient de vivre une rupture amoureuse de préparer un discours pour le mariage de sa sœur. Tant et si bien que pendant un repas de famille se mêlent de façon à la fois drôle et caustique ses ébauches de discours et son discours intérieur.
Sonia, j'espère que tu vas bien. Bisous. Je m'étais promis de ne pas lui écrire. Par une sorte de théorie qui veut que l'absence renforce la présence. Qu'il faut nourrir la cristallisation comme on nourrit un animal de compagnie. Créer le manque. Laisser le champ libre au mystère. Que fait-il? Où est-il en ce moment? M'a-t-il déjà oublié? Ce n'était peut-être pas le bon choix. Pourquoi l'ai-je quitté? Au fond, avais-je une bonne raison de le faire? Suis-je vraiment plus heureuse maintenant? Mon Adrien, mon tendre Adrien. Mais j'avais craqué, comme un alcoolique abstinent depuis 2 jours, qui se dit qu'après tout, une petite goutte ne peut pas lui faire de mal. J'ai envoyé mon message à 17h24, juste avant de partir, et il a été lu à 17h56. Quand j'ai découvert qu'elle était en train de le lire, j'ai été transportée par une joie irrationnelle, de celle qui accompagne les nouveaux départs. Un souffle de nouveau a fouetté mon visage. Elle lit mon message. Elle a eu cette envie-là, cet élan. Elle a voulu savoir ce que je lui écrivais. Je ne lui suis pas indifférent. Tout allait recommencer comme avant. Mais les minutes passent. La perspective d'avoir une réponse instantanée s'éloignait dangereusement et il m'apparaissait peu à peu que c'était le ton même de mon message qui était la cause de ce silence. Je l'avais voulu détaché, léger, d'une brièveté exemplaire, pour ne pas l'effrayer, ne pas la faire fuir, ne pas laisser transparaître le moindre signe d'attente et surtout pas l'ombre d'un ressentiment ou d'une rancœur quelconque. Je voulais que ce message dise « Tout va bien, si tu as besoin de moi, je suis là. » Mais peut-être sa légèreté excessive n'appelait-elle pas de réponse particulière. Peut-être n'est-elle tout simplement pas en mesure de me répondre. Quelle activité à 17h56 justifie qu'on soit dans l'incapacité de répondre à un message? Peut-être était-elle en voiture à ce moment-là. Elle a attrapé son portable, posé sur le siège passager, a commencé à écrire un simple mot. Je conduis, je te réponds dès que je rentre, je t'embrasse. Et l'attention tout à son écran n'a vu qu'au dernier moment le père et son fils à vélo sur le bord de la route, tous deux affublés d'un casque et d'un gilet fluo. Elle a donné un coup de volant réflexe et a percuté de plein fouet la voiture qui arrivait en face. Elle est à l'hôpital, rien de grave, quelques contusions, les cervicales, une semaine de Minerve et tout devrait rentrer dans l'ordre. Elle veut me prévenir, mais son portable est resté dans la chambre avec ses affaires. Elle demande à l'infirmière. Une grande rousse, un peu forte, aux petits yeux bleus, type allemand, bien qu'il y ait écrit Nathalie sur son badge. Elle demande à Nathalie si elle pourrait avoir son portable. Tut, 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 lui répond Nathalie d'un ton qui se veut maternel, mais qui ne parvient pas à dissimuler une ferme autorité naturelle. Tut, 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 les examens d'abord. Ne vous inquiétez pas. On vous ramène dans la chambre immédiatement après. Vous aurez tout le temps de lui écrire à votre amoureux. On ne plaisante pas avec Nathalie. Les enfants de Nathalie savent que s'ils renversent du lait et des cornflakes sur la table du petit déjeuner, ils doivent sans un mot aller chercher l'éponge dans l'évier pour nettoyer. Nathalie leur a enseigné ça. Il existe des règles. Ce n'est pas aux autres de réparer nos bêtises. La vie est une jungle, les enfants. On est seul. On vit seul, on meurt seul. Personne ne nettoiera le lait au cornflakes à votre place. Aussitôt les examens terminés, Sonia aura été prise dans le flot de l'administratif hospitalier. Les papiers à remplir, la pharmacie, puis peut-être sa mère a appelé pour la rassurer. Puis elle s'est dit, bon, j'appellerai Adrien plus tard. Je ne veux pas l'inquiéter avec ça. Mon Adrien, mon tendre Adrien.
Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Peut-être ai-je mal perçu le ton de sa requête. Peut-être n'était-ce au fond qu'une simple demande de service que j'ai prise un peu vite pour une injonction sans discussion possible. Après tout, il me suffit de lui dire le plus simplement du monde « Ludo, écoute, je le sens pas. C'est une très bonne idée cette histoire de discours, indéniablement. » C'est même un honneur que tu me fais pour votre mariage. Ça me touche beaucoup, mais tu sais, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en charge. Je ne pense pas être la personne la plus apte à m'acquitter de cette mission. Voilà. J'attendrai que ma sœur s'absente à nouveau et je le lui dirai. Ce n'est pas si compliqué après tout. Moins compliqué, par exemple, que de rédiger un message sobre et léger qui appelle une réponse à 17h56. Et je réalise tout à coup l'incongruité de ma ponctuation. Pourquoi un point d'exclamation à la fin de bisous? Pourquoi cet emballement soudain? Ce point d'exclamation délivre un message inverse à celui souhaité. Ce point d'exclamation est une demande, une supplique, un cri de douleur. Il m'en dit une réponse, il quémande de l'amour. C'est de la ponctuation de genoux à terre. Il hurle « Sonia, bordel, qu'est-ce que tu fous? Réponds-moi! Tu vois pas que je suis malade de chagrin, que je n'y arrive pas sans toi, que tout est vide et fade et sans le moindre sens ?» Il se veut festif et léger, mais il n'est que larmoyant et inquiet. Un message parfait de sobriété, gâché au tout dernier moment dans le tout dernier mètre. Pourquoi ne pas m'être contenté d'un simple point? Un point final, dans toute sa splendeur, au sommet de son arc, qui conclut dignement une merveilleuse histoire d'amour et part sans se retourner, princier, un point serein, mesuré, au flegme britannique, un point qui n'attend rien en retour, que le bonheur de l'autre, mais qui le laisse en réalité dans un vide abyssal. Derrière un point final, on n'a qu'une seule envie, c'est que rien ne finisse. Et j'envisage une seconde de lui envoyer un erratum. Oups! Désolé, mon portable a un problème. Il met des points d'exclamation au lieu de points finaux. Bisous. Point final.
Tu as l'air fatigué, Adrien. Tu es sûr que tu dors assez? Ma mère me trouve toujours fatiguée, toujours amaigrie, toujours pâle. Non, maman, je ne suis pas fatiguée. Je vieillis, j'ai 40 ans, j'ai perdu mes illusions et je ne ris plus comme à 13 ans. J'ai moins envie, c'est comme ça. Tu aurais envie de rire, toi, si tu avais mis un point d'exclamation à Bisou ? Tu aurais envie de rire si ton beau-frère venait de te demander de faire un discours pour son mariage ? Non, évidemment. N'importe qui aurait l'air fatigué après une telle requête, maman. L'année de mes 30 ans, j'ai sombré dans une profonde dépression. Un chagrin d'amour, un de plus. J'étais revenue passer quelques jours chez mes parents. J'avais besoin de repli fœtal, de retour aux sources, quand bien même je n'avais plus rien de commun avec la source. Je me souviens qu'un soir, pendant que ma mère préparait le repas, debout dans la cuisine, j'avais essayé de lui parler de mon mal, la dépression, sans l'affoler, mais sans l'épargner non plus. J'avais besoin de partager ça avec elle, lui dire à quel point j'étais rongée, à quel point j'en souffrais. C'est à quoi elle avait répondu « Tu dois boire du jus d'orange. » Voilà, c'était ça la solution de ma mère, boire du jus d'orange. Je vivais avec l'idée de la mort en permanence, le monde autour de moi était un gouffre sans fond, je n'étais plus en mesure de percevoir l'extérieur autrement qu'à travers un filtre charbonneux, la finitude m'apparaissait en toute chose, et ma mère me conseillait de boire du jus d'orange. Le soir même de mes 30 ans, j'étais sur le canapé avec mes parents et nous avions regardé Le Gendarme de Saint-Tropez. Et c'est probablement la définition la plus précise que l'on puisse donner de la dépression. C'était l'été, c'était un samedi soir. Le monde s'activait, grouillait. Ailleurs, il y avait des festivals, des concerts, des familles en short sur la plage, des rires, des cocktails au nom brésilien, de la moiteur au clair de lune, des tubes de l'été qui se font frotter les ventres les uns contre les autres. Moi, je regardais Louis de Funès courir derrière des filles nues et mes parents riaient comme si ce n'était pas la 36e fois qu'ils voyaient cette scène. Si à 17 ans on m'avait dit « Le soir de tes 30 ans, tu regarderas Le Gendarme de Saint-Tropez seul avec tes parents », je ne sais pas si j'aurais eu envie de continuer la route. Et j'en ai 40. Et à 17h56, elle a lu mon message sans y répondre. Et la vie est un éternel recommencement. Et il décrit que je passerai toutes mes dizaines d'années chez mes parents avec le cœur broyé. À 50 ans, je serai là, assis à la même place, et une Élodie, une Alice, une Chloé m'aura brisé le cœur, et Ludo me glissera dans le creux de l'oreille. « Dis, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours pour la communion de Kevin. » Et il m'apparaît que l'existence n'est pas un segment, comme on en a parfois la perception mentale, mais un cercle de 10 ans de circonférence sur lequel on tourne comme un cheval de cirque. Et tous les 10 ans, on passe par ce même point, le point de chagrin d'amour chez ses parents. Mais après tout, tant qu'il y a des oranges, il y a de l'espoir.
Je vais faire une liste. La voilà la solution. Voilà ce qui va me sauver. Les listes ont toujours été mes fidèles alliés. J'ai toujours dressé des listes pour tout et n'importe quoi. Écrire un discours, littéralement de A à Z, avec sa ponctuation, ses mots au cordeau, donnerait forcément lieu à un discours figé, une lecture ennuyeuse et monocorde. D'autant que je n'ai pas l'âme d'un grand tribun. Je vais noter quelques mots-clés autour desquels broder, des mots-clés marquant les temps forts de mon discours. Enfance, temps qui passe, bonheur, vie à deux, vacances en famille, Pitou, l'épagneul de notre enfance, mort écrasé par une voiture, vacances à La Rochelle, avenir, vaisselle à faire. Oui, mon discours sera ponctué de touches d'humour. Que cet Adrien est drôle. Vive Adrien, vive le discours d'Adrien. Voilà une liste. Je vais faire une liste. Le jour de mon premier rendez-vous avec Sonia, j'étais si stressée que j'avais préparé une liste de thèmes de discussion. L'éventualité d'un blanc me tétanisait, un silence qui s'invite à un premier rendez-vous me semblait synonyme de débâcle. Il signifiait « ça ne colle pas, vous deux, c'est pas possible, en réalité vous n'avez pas tant de points communs que ça ». J'avais la sensation de passer un oral décisif. J'avais donc pris une feuille et commencé à noter des thèmes en vrac, me fondant sur des sujets qu'on avait abordés par messagerie pour pouvoir les recaser l'air de rien entre deux gorgées de bière, le plus naturellement du monde, comme un interlocuteur passionnant et passionné pour qui la répartie serait une seconde nature. J'avais noté essentiellement les questions à lui poser, espérant que de son côté, elle en aurait à me poser en retour, de manière que les tâches soient partagées et que mon temps nécessaire d'intervention soit environ divisé de moitié. Je comptais aussi sur un effet de domino, un sujet pouvant en entraîner un autre. Ainsi, de fil en aiguille, on tiendrait deux heures et demie, facile. Boulot, ça te plaît? La Camargue, ça t'a plu? Anecdote sur le pèlerinage des gitans au Sainte-Marie-de-la-Mer. Tu es fan des Beatles? Album favori? Lennon ou McCartney? Anecdote, sœur de Mia Farrow, acide en Inde. Dear Prudence, Annie Ernaux, titre, parler du bar, la bière, soirée dernière fois, Jean, tu la connais d'où Karine? Casé, compte, petit tailleur de pierre, pourquoi du marqueur sur mon paquet? J'avais révisé durant le trajet en voiture, manquant même griller un feu rouge, et avais glissé la feuille pliée en deux dans ma poche, juste avant d'arriver au rendez-vous. Si j'avais un trou de mémoire, je pourrais toujours aller aux toilettes relire mes antisèches. Elle était déjà assise en terrasse lorsque j'arrivais. Je m'étais assis et tout s'était enchaîné. Nous nous étions lancés dans une conversation à bâton rompu, de la manière la plus naturelle et la plus détendue qui soit, et mes mots coulaient sans même que j'y prenne garde, comme un étudiant qui découvre son sujet et qui, question après question, constate avec soulagement qu'il n'a fait aucune impasse fatale. Et cette histoire de liste m'apparaissait subitement ridicule et d'une immaturité risible. Comment avais-je pu croire une seule seconde que nous n'aurions rien à nous dire? Nous sautions d'un sujet à l'autre sans souci de transition, dans une boulimie de connaissances de l'autre, et tout semblait une évidence. Et dès cet instant, je sus que c'était elle. Cette pensée m'avait traversée. C'est elle. C'est elle qui... Quoi, je ne savais pas trop, mais c'était elle. De lien en lien, nous nous mîmes à parler littérature. Elle ne tarissait pas de références que je devais absolument lire. Ces petits incontournables, ces livres de chevet. Tu dois lire le livre de l'intranquillité de Pessoa. Tu dois lire « L'homme sans qualité » de Musil. Tu dois lire « Tendre et la nuit » de Fitzgerald. Tu dois lire « Plein de vie » de Fante. Elle m'enveloppait de titres et de noms d'auteurs pleins d'une exaltation communicative. Des noms que j'essayais d'attraper au vol, comme un enfant court après des bulles de savon. Et sur l'instant, rien ne me paraissait plus important que de découvrir, dévorer, faire mien tout ce dont elle parlait. Craignant d'oublier ses conseils dès le lendemain, j'avais fini par sortir le papier de ma poche et lui avais demandé de noter toutes les œuvres qu'elle venait d'énumérer. Mon enthousiasme et ma légère ébriété m'avaient fait oublier que j'étais en train de lui tendre mon antisèche. Je ne réalisais qu'au moment où elle l'a pris dans sa main. J'aurais voulu la lui arracher aussitôt pour la remettre dans ma poche, mais j'aurais eu du mal à justifier un tel geste. De toute façon, j'étais trop tétanisée pour faire quoi que ce soit. Elle continuait à me parler, à me citer des titres, des noms, des éditeurs, mais je ne l'écoutais plus. Absorbée que j'étais par ce morceau de papier qu'elle agitait sans cesse, priant pour qu'elle ne déplie pas la feuille. Inévitablement, tout en continuant à parler, elle l'avait fait. Elle l'avait déplié, dans un réflexe naturel, parce qu'on a naturellement tendance à déplier une feuille pliée sans raison tangible. Elle avait regardé la liste, avait froncé les sourcils avec un sourire interrogatif, et je devinais dans ses yeux qu'elle était en train de comprendre ce qu'elle lisait, et j'essayais, ce faisant, de trouver une parade, mais mon esprit était bien trop paniqué pour avoir la moindre pertinence, la moindre réponse cohérente. C'était trop tard, et j'étais comme un noyé qui se voit suffoqué, mais qui finit par admettre la situation
presque stoïque. Bon, ben voilà, en fait, je me noie. J'avais tout gâché, une fois de plus. Je me souviens d'avoir envisagé très sérieusement de me lever et de partir en courant. Tu fais des listes de sujets de discussion avant un rendez-vous ? Je songeais un instant à répondre non. Un non enfantin, c'est pas moi, je ne sais pas ce que ça fait là. Ou bien, oui, tu vas rire, je fais une collection de listes, de courses, de discussions, des trucs que je trouve par terre, dans la rue. Mais fatiguée d'avance par le combat à mener, j'avais abdiqué. Oui, j'étais intimidée. Je craignais d'être si troublée que je n'aurais pas pu articuler un mot. Je suis désolée, c'est complètement immature, je sais. Elle m'avait fixée, avait souri, et j'avais cru ou voulu lire dans ce sourire une infinie tendresse. Puis elle avait éclaté d'un rire franc et s'était penchée sur la feuille avec une application de collégienne. Alors les titres. Je te préviens, j'ai pas une super écriture, j'espère que tu arriveras à déchiffrer. Elle avait écrit en silence, m'avait tendu la feuille, avait attrapé son verre de bière, avait bu une gorgée en me fixant de manière très intense, puis avait dit d'un air mutin « Bon, tu me le racontes, ce conte de petit tailleur de pierre ?» Tout était simple au début avec Sonia.
Je prononcerai ce discours à une condition, Ludo. Une seule. Que tu arrêtes de faire grincer ta fourchette dans ton assiette. Je pourrais tuer pour ça. Je pourrais tuer quelqu'un qui fait grincer sa fourchette. Non, Ludo, ce n'est pas la fourchette qu'on tire. La fourchette n'a pas à être déplacée. Son rôle est simplement d'être plantée dans le morceau de viande. C'est sa raison d'être. C'est le couteau qui effectue le mouvement. C'est lui qui coupe. La fourchette ne sert qu'à immobiliser le morceau de gigot pour permettre au couteau de couper sans que la tranche de gigot ne glisse sur l'assiette. On n'a pas besoin d'écrire des articles scientifiques pour comprendre ça. Il y a des codes. Ludo, sinon c'est le bordel. 7 milliards de névrosés, de toqués, d'inadaptés, essayant de vivre ensemble, se faisant croire que c'est possible, qu'ils sont des êtres sociaux, qu'on ne tue pas pour un grincement de fourchette dans l'assiette, qu'on ne quitte pas son amoureux parce qu'il fait du bruit en buvant un café. Un jour, tu te réveilles, Sonia, et tu ne supportes plus ça, le bruit que fait l'autre en buvant son café. Tu ne supportes plus son éternel t-shirt, toujours le même, celui qui t'est mauvais tant. Le matin, tu ouvres la fenêtre de la chambre parce que l'odeur de l'eau t'indispose. Tu dis, j'ouvre, il fait un peu chaud, alors qu'on est en novembre et qu'il fait moins 3 dehors. Un jour, un message de ton ami Laure à propos d'une vidéo de chat qui rate un canapé t'intéresse plus que l'homme que tu as en face de toi. La pause était déjà écrite dans tous ces petits signes que je n'ai pas su voir. Je suis en train de manger du gigot et du gratin dauphinois, alors que le bruit de mon tourment est ailleurs et qu'une fourchette menace à tout moment de grincer dans l'assiette. Et la discussion ne porte même pas sur l'amour ou la poésie ou le sens de la vie. Non, on parle de chauffage au sol, de vacances en Sardaigne, de Jean-François, le fils du voisin, qui a fait construire. Tu entends ça, Adrien ? Il a fait construire. Pour ma mère, le monde se divise en 3 catégories. Ceux qui ont un cancer, ceux qui font construire et ceux qui n'ont pas d'actualité particulière. Entre ces 2 stades, la construction et le cancer, pas grand-chose. Une espèce de flottement, une parenthèse, un grand vide existentiel. Et chaque fois qu'elle cite quelqu'un qui a fait construire, c'est une façon de me dire de manière détournée, « Toi, Adrien, tu n'as pas fait construire. Tu es en location. Mais qu'est-ce qu'on a raté avec toi, Adrien ? À quel moment tout cela a mal tourné ? Et là, tu vois, Sonia, je suis pris d'une irrésistible envie de me lever, de quitter la table et de te rejoindre. Pourquoi attendre un message alors qu'il serait si simple que je te retrouve, que je débarque chez toi sans prévenir ? Comment accueillerais-tu cet élan ? Un aveu de faiblesse ? Une intrusion, une agression, un geste pathétique, héroïque, touchant, pitoyable. Je pars, je dois partir. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai un truc à régler. Oh, j'aurais adoré savoir quel artisan chauffagiste a choisi Jean-François pour sa chaudière. J'aurais adoré savoir si le bateau qui va vous emmener en Sardaigne est pourvu d'une piscine à bulles et d'un bar à mojitos. Mais là, vraiment, je ne peux pas rester. Je suis désolée, c'est une urgence. Sauter dans ma voiture, démarrer en trombe. L'image passe en 16/9, gros grain noir et blanc, les premiers jarmuches. Ma vitre est ouverte, je fume une cigarette, les cheveux au vent, et la musique à fond que je couvre de mon chant approximatif en yaourt. Se gonfler de romanesque. Tu te souviens, Sonia ? Maître de la vie dans la vie, insuffler du romantisme dans tout. Tu te souviens de cette scène, un monde sans pitié ? La tour Eiffel qui s'éteint au claquement de doigts. Tu aimais ça chez moi, ce romantisme échevelé. Tu as fini par le détester, comme mon t-shirt, comme mon odeur. Tu dois lire le livre de l'intranquillité de Pessoa. Tu dois lire l'homme sans qualité de Musil. Tu dois lire Tendre et la nuit de Fitzgerald. Tu dois lire Plein de vie de Fante. Attends, tu peux faire moins de bruit en buvant ton café, s'il te plaît ? Je ne me lève pas, je ne chante pas en yaourt, les cheveux au vent, l'image ne passe pas en 16/9, parce que je suis lâche, parce que Ludo a terminé son morceau de viande et parce que je ne veux pas lire dans tes yeux que quelque chose s'est détruit. Je préfère y croire encore un peu en écoutant la liste des gens qui ont fait construire.
Je ne vais pas faire long, ne vous inquiétez pas. En fait, comme je n'ai absolument rien préparé parce que ma motivation était, avouons-le, mitigée, et étant donné que je suis censée faire un discours sur quelque chose qui me tient à cœur, j'ai décidé de vous énumérer le contenu de mon petit musée Sonia. Pas tout, n'ayez crainte, seulement quelques éléments. Je sais que vous avez faim et que le discours est un moment très pénible pour tout le monde. Alors, une photo d'elle à 7 ans. Elle est sagement assise sur un canapé et fixe l'objectif d'un air un peu triste. Une lingette démaquillante avec des traces rouges. Un emballage de barres chocolatées, vestige d'un de ses goûters. Une capsule de 1664. Une vingtaine de cadavres exquis que nous avions fait en attendant le train pour Marseille. Je ne résiste pas au plaisir de vous en lire un au hasard. Hier soir, sur la dune, la jeune fille se fâcha contre ses rêves incandescents. C'est beau, non ? Une mèche de cheveux dans un petit sachet de plastique transparent. Des lettres. Beaucoup de lettres. Sonia et moi adorions nous écrire des lettres, même si déchiffrer son écriture était chaque fois un calvaire. Un ticket de tram. L'antisège de discussion de notre premier rendez-vous, avec les titres des livres qu'elle m'avait conseillés. Un ticket de caisse de la FNAC, les plus grands tubes de Claude Barzotti, un morceau de papier sur lequel elle avait griffonné « Sonia Drian » et qu'elle m'avait fait passer discrètement sous la table pendant un repas ennuyeux, le bouchon d'une bouteille de champagne que nous avions bu dans un parc dans des gobelets en plastique. Sur le banc, nous avions écrit « S plus A égale AESD » au stylo. Je vous souhaite une bonne soirée.
Attends, tu connais pas le dernier coup de Bérangère ? Et c'est parti pour le chapitre Bérangère. Et là, il est question d'un planning de vacances qu'elle aurait retouché, prétextant avoir fait une erreur d'inattention. Mais selon ma sœur, erreur d'inattention, tu parles. Ça va pas se passer comme ça. Je peux te dire que son erreur, elle mime les guillemets avec ses doigts, elle va la sentir passer. Et ma mère lui répond « Tu as raison, ne te laisse pas faire !» Elle lui répond systématiquement ça « Tu as raison, ne te laisse pas faire !» à se demander si elle l'écoute vraiment. « Ouais, maman a raison, vas-y Sophie, te laisse pas faire, rentre-lui dedans, offre-lui une encyclopédie !» Et pendant que Bérangère a fait je ne sais quoi d'autre, la semaine dernière, je passe machinalement mon pouce sur mes lèvres. Même si tu n'es plus là pour le voir, Sonia, je continue de le faire partout où je vais, partout où tu n'es plus. Et que l'ennui me gagne comme un lien invisible tendu entre nous. Comme ces veuves qui continuent de parler à leur mari en faisant le ménage. Parce qu'il n'y avait qu'à lui qu'elle racontait tout ça. Ces petits riens sans importance. Chaque fois que l'on se retrouvait en groupe et que la discussion nous ennuyait, Sonia et moi avions établi un code pour nous le signifier. Nous passions discrètement notre pouce sur nos lèvres comme Belmondo dans À bout de souffle. Sans même nous regarder. Et ce signe signifiait littéralement « Je me fais chier. J'ai hâte qu'on se retrouve juste tous les deux. » Je me souviens parfaitement de l'origine de ce code. Un après-midi, nous avions décidé de partager nos deux films cultes respectifs. Il était une fois en Amérique, le mien, suivi aussitôt d'À bout de souffle, le sien, emmitouflé sous une couette. Le lendemain, nous étions invités à une raclette. Nous étions une dizaine à table, le repas traînait en longueur. Sonia était face à moi et je voyais à son air absent et à ses verres de vin qui se vidaient qu'elle s'ennuyait à mourir. Et je m'étais mis à imiter le geste de Belmondo, le pouce sur les lèvres comme ça, sans raison, alors que nos regards s'étaient croisés. Elle avait éclaté de rire au beau milieu d'une discussion sur la droitisation du pays ou quelque chose dans le genre. Et tout le monde l'avait regardé comme on regarde un rat dans une portée de chaton. Nous avions aussitôt adopté ce code. Ce signe que Jean Seberg fait dans la toute dernière scène quand Belmondo s'éteint, étendu sur le bitume. Sonia était fascinée par Jean Seberg, au point d'avoir eu longtemps, comme elle, les cheveux très courts. Sur les photos datant de cette époque, la ressemblance est assez troublante. Elle était absolument fascinée par son histoire d'amour avec Romain Gary, et plus encore par son étrange disparition, 3 grammes d'alcool dans le sang, étendue sur la banquette d'une Renault 5. Cette fin la bouleversait et l'intriguait beaucoup. Comment une icône peut-elle terminer ainsi? Il s'en passe des choses sur les banquettes de Renault 5. Encore que vomir sur un autostoppeur sont nettement moins romanesques et moins tragiques. Dans « Il était une fois en Amérique », le jeune Noddles et ses camarades proposent aux contrebandiers une technique pour que leurs marchandises échappent à la surveillance des gardes-côtes. Amarrer une bouée aux caisses de whisky et lester le tout au fond de l'eau à l'aide de sacs remplis de sel. Lorsque le sel est dissous, les caisses remontent à la surface. Et cette image m'apparaît soudain comme une métaphore du couple. Quand il n'y a plus de sel, tout remonte à la surface. Et je ne sais pas pourquoi cette image s'impose à moi au moment où c'est dégueulasse. Bérangère a posé un mercredi après-midi alors qu'elle n'a même pas d'enfant, juste pour faire chier son monde. Et je ne saisis pas bien dans la formulation de ma sœur si c'est poser un mercredi après-midi ou ne pas avoir d'enfant qui est dégueulasse et qui est censé faire chier son monde. Mais je m'abstiens de poser la question parce que je m'en fous et que la seule chose qui fait chier mon monde à moi, c'est la subite métaphore du sel dissous. En même temps, absolument tout ces derniers temps m'apparaît comme une métaphore du couple. Je suis sûre qu'en faisant un petit effort d'imagination, les tranches de pommes de terre empilées du gratin dauphinois pourraient très bien évoquer l'inéluctable délitement de la passion amoureuse.
Mon père se coupe un morceau de pain et le repose discrètement à l'envers sur la table. Ma mère le remet à l'endroit d'un geste sec, le gratifiant d'un regard accusateur. Et je suis soulagée qu'elle l'ait vu et l'ait remis à l'endroit, et je m'en veux d'être soulagée. J'ai hérité d'elle une superstition tenace dont j'essaie de me défendre mais contre laquelle je ne peux rien. Comme un diabète ou un anévrisme sur l'aorte, on ne choisit pas notre héritage. Moi aussi je remets le pain à l'endroit. Moi aussi j'évite de passer sous les échelles. Moi aussi je touche du bois et me demande inquiet s'il s'agit bien de bois et si, le cas échéant, ça marche aussi avec de l'aggloméré. Moi aussi, j'évite de croiser des 13 sur le cadran numérique d'un radio-réveil. Moi non plus, je n'ouvre jamais un parapluie à l'intérieur. Et je me pince quand je vois une 2 chevaux verte. Bien que ce rituel-là ne me vienne pas de ma mère. Et je serais bien incapable d'en définir l'origine, mais je m'y plie malgré tout, comme si ma vie en dépendait. Tout ça t'amusait beaucoup, Sonia, tu te souviens ?
Et tu en jouais. Tu adorais ça, poser le pain à l'envers sur la table pour m'inciter à le remettre à l'endroit. Et tu trouvais ça poétique. C'est le mot que tu employais. Poétique. Parce que nous avons traversé cette période enchantée où les failles sont toutes poétiques, magnifiées. Et savais-tu, Sonia, que Michel-Ange a repeint le plafond de la chapelle Sixtine pour masquer les fissures qui étaient apparues après que le sol eut bougé à la suite de l'édification de la basilique Saint-Pierre de Rome juste à côté? C'est le pape Jules II qui lui a passé cette commande, mais la peinture seule était bien en peine de cacher les dégâts. Alors Michel-Ange, au lieu de tenter de dissimuler les failles, s'en est servi, a épousé les lignes pour en faire des crêtes de nuages, des contours, des lignes magnifiques. Voilà, Sonia, à cette époque, nous étions des Michel-Ange l'un pour l'autre, transformant nos failles en quelque chose de beau et poétique et lumineux, créant des crêtes à l'endroit de nos fêlures. Et un jour, les failles ne sont plus que des failles. Un jour, ça ne t'a plus amusé que je remette le pain à l'endroit alors que tu l'avais posé à l'envers, par mégarde. Un jour, ce geste t'a irrité, et le pain à l'endroit a rejoint mes infarctus et mes névroses dans le local à poubelle. Et je ne peux m'empêcher de penser, on ne se refait pas, hein, que c'est cette accumulation de pain à l'envers qui nous a porté la poisse. C'est idiot, hein? Oui, c'est idiot, tu peux le dire. Voilà ce que ma mère m'aura laissé en héritage. L'intime conviction que le « j'ai besoin d'une pause » est due en partie à un jeu de pain à l'envers, une provocation divine. À quel moment s'est opéré le glissement de terrain, Sonia? À quel moment a-t-on construit une basilique Saint-Pierre à l'origine du tsunami qui a fait chavirer notre coquille de noix? Au passage, je suis infiniment reconnaissant à Ludo de ne pas nous gratifier de son laïus sur l'origine de cette croyance. Son histoire de pain à l'envers réservé aux bourreaux du Moyen-Âge. Peut-être lui aussi cherche-t-il à briser le continuum espace-temps. Peut-être lui aussi est-il dans une proposition de nouveau présent. Et nous ne serons pas trop de deux pour briser la malédiction. Maman, tu peux arrêter avec ça? Ma sœur, elle, ne manque jamais une occasion de reprendre ma mère sur ses petites croyances, ayant hérité d'on ne sait trop qui, d'une inébranlable rationalité et d'un pragmatisme à toute épreuve. Et toi, avec tes encyclopédies? C'est la réponse qui me traverse. Complètement hors sujet, hors de propos, pas pertinente pour dessous, comme tout ce qui me traverse depuis 17h56. Si l'on avait demandé à ma sœur de faire quelque chose pour le plafond de la chapelle Sixtine, elle aurait fait venir une entreprise de maçonnerie, un bon coup de mastic gris là-dessus, et hop, l'affaire est pliée. Chapelle Sixtine, sodomie.
Bonsoir à tous. Je ne vais pas faire long, ne vous inquiétez pas. C'est un grand honneur qui m'est donné ce soir que de faire un discours pour le mariage de ma petite sœur. Ce jour de fête remue beaucoup de choses. Et je ne sais pas pourquoi un souvenir précis me revient. Elle devait avoir 12 ans. Un jour, que j'entrais sans raison particulière dans sa chambre, en son absence, comme ça m'arrivait parfois, je revois encore sa petite collection d'échantillons de parfums et son poster des New Kids on the Blocks. Ce jour-là, donc, j'étais tombée sur son journal intime. Je ne voulais pas l'ouvrir. Je ne voulais surtout pas violer son intimité. Mais, cédant à la tentation, je m'étais promis d'ouvrir au hasard, de ne lire qu'une seule phrase et de le refermer aussitôt. Sauf que la première phrase sur laquelle je tombais m'intrigua. Il était écrit « Benjamin B-8,1-4,L-7. » Je ne pouvais pas en rester là. Il fallait que je découvre le sens de ce code mystérieux. Je parcourus alors le journal à rebours, croisant à plusieurs reprises ce type d'annotation. Rémi, 2.B-5,1-8,L-3, ou bien Damien, 2.B-9,I-7,L-8, avant de tomber sur la pierre de Rosette. Mercredi 27 novembre, aujourd'hui Pascal m'a regardé. Il est devenu tout rouge. En beauté, je mettrais 7 sur 10. En intelligence, je mettrais 6 sur 10. Et en look, je mettrais 8 sur 10. Voilà. Tout était parti de là. Elle notait les garçons de son entourage selon trois critères essentiels: beauté, intelligence, look. Par exemple, si je devais noter Ludovic ici présent, je dirais Ludovic, 2 points, B-3,